d'ensemble de l'actualité.
On va passer à un hiver plat, désagréable à certains niveaux. Noël s'en vient. On va probablement, dans plusieurs parties du pays, pas pouvoir se rassembler avec nos familles, même si on fait vraiment attention dans les semaines à venir. Mais peut-être, nous devons endurer. Nous devons faire notre part. Et on va passer à travers.
Trêveville PM.
Alors, c'était Justin Trudeau un peu plus tôt ce matin. En fin d'avant-midi. Luc Lavoie, bonjour.
Salut, Bernard.
Bon, petit commentaire d'abord sur le message du premier ministre qui est, je pense, réaliste, mais le ton avec lequel il le livre, il m'énerve quand il est de même. Je sais pas si t'es comme moi, là, mais ça...
Quand il est de même, tu veux dire quoi, Bernard?
Ben,
quand...
Noël sera difficile cette année. Regarde, qu'ils me disent, là, regardez, Noël, ça va être dur cette année. OK? On va se parler, là. Mais ça a l'air appris par cœur. On dirait du théâtre, encore une fois. Non, mais Luc, à un moment donné, là, il est capable de me montrer de la sincérité. Je suis sûr qu'il le croit. Mais pourquoi est-ce que ça a toujours l'air appris par cœur, ces maudites affaires?
J'avoue que j'avais pas vu ça sous cet angle-là du tout, là.
Non, bon.
C'est valable. mais je veux dire, par ailleurs, je suis très content que quelqu'un le dise.
Oui. C'est ça, mais c'est pas
moi,
ça.
J'aime pas ça, l'affaire d'hier. L'affaire annoncée à 17h hier, on vous donne un autre là, de 4 semaines, là, vous allez voir. Là. Je crois pas à ça. Pourquoi ils nous disent pas, vous savez, Noël est en danger sérieux. Si vous aviez des plans, commencez à penser autrement parce que on sera pas prêt à Noël à se réunir en famille. J'aime ça que quelqu'un le dise, que ça soit clair. Sans ça, tout le monde est là. Puis
mais je suis d'accord. Honnêtement, je suis d'accord avec le message. C'est le ton avec lequel il le dit.
Ouais, ben il m'énerve pas mal quand il parle en général. Là. Ça, faut que je te le dise. Alors, moi, c'est pour ça que j'essaye pas d'appliquer ça au cas précis. Là. Et c'est qu'il m'énerve depuis pas mal longtemps.
T'sais. OK. Mais cela étant dit, il a la franchise. Hein, parce que dans le fond, c'est à ça que tu en appelles. Tu appelles
absolument.
À de la franchise.
Ils savent des choses que je sais pas. Ils ont des spécialistes autour d'eux, des scientifiques extraordinaires qui chaque jour répondent à leurs questions. Tu leur dis à ces scientifiques-là, Noël, moi, je suis pas mal sûr qu'il y en a 9,5 sur 10 des scientifiques qui travaillent pour eux, qui leur disent, oubliez ça, Noël, là. Il n'est pas question qu'on fasse des grands rassemblements.
En tout cas, Trudeau, il vient pas mal de mettre une croix sur Noël là, quand il dit... comment est-ce qu'il a dit ça? Ça va être plate. Comment est-ce qu'il a dit ça?
Il y a plusieurs endroits au pays où on ne pourra pas se réunir. Il a dit ça. Il a dit l'hiver va être long puis ça va être plate.
Oui, c'est ça. On va passer un hiver plate.
Oui, mais ça va être plate aussi.
Ça a le mérite d'être
à
clair.
À moins que les gens viennent écouter notre émission ou notre humour et notre convivialité.
Notre joie de vivre.
Notre joie de vivre. Tu l'as trouvé le mot, Bernard. C'est nous. Ça, c'est toi et moi.
Bon, parlant de joie de vivre, elle risque d'être moins intense chez les partisans démocrates parce que là, les sondages aux États-Unis, ça va un petit peu moins bien pour notre ami Joe Biden.
Ça se resserre de façon assez rapide, d'ailleurs. Je le regarde à l'instant même, là, la moyenne RCP qu'on appelle.
Qui est la moyenne, dans le fond, des sondages sérieux. Y compris Léger, hein, soit dit en passant.
Oui,
Léger, t'as remarqué ça? Léger, maintenant, fait partie des firmes de sondage que le New York Times, dont le New York Times publie les résultats aux États-Unis. C'est une belle plume au chapeau de Jean-Marc Léger et de son entreprise.
Il fait du bon travail, Jean-Marc,
Vraiment, c'est alors, donc, quand tu regardes la fusion, la synthèse des différents sondages, ça se resserre.
Ben, ça se resserre. On est à 50,7 en faveur de Biden et 43,3 en faveur de Trump. Alors, ça se resserre. On était à 9-10 points encore récemment. Et il semble que ça se resserre aussi dans les fameux battlegrounds, dans les États où...
les États pivots, hein, on peut dire.
Les États pivots.
Ouais.
Et la gaffe de Biden en Pennsylvanie puis en au Texas, ça n'a pas été ben fort. Je parle de quand il a dit on va abandonner le pétrole.
Ben oui.
Alors, et par ailleurs, moi, je sais pas, évidemment, quelle crédibilité accorder à ça. J'ai un ami américain qui est branché directement dans Maison-Blanche et qui m'a envoyé hier une feuille, enfin, c'était un scan, c'était une photo, là, mais c'était quand même une feuille qui était sur le siège de tous ceux qui voyageaient à bord d'Air Force One hier avec le président, et ça leur disait, voici dans 3 battlegrounds, dans 3 États, clés, dont la Pennsylvanie, les résultats de nos derniers sondages, Et là, ça met Trump en avance dans les trois cas. Dans le cas de la Pennsylvanie, dans le cas du Michigan, je crois, et dans le cas de l'Ohio. Alors là, j'ai vérifié, c'est-tu vrai que c'était... Ouais. Oui, c'était vrai que c'était dans Air Force One. Est-ce que je peux croire ce qu'on répand comme propagande auprès des employés du président? Je le sais pas, mais moi, je sais que présentement, Joe Biden ne fait pas campagne, il reste chez lui, et que Trump continue à brasser la cage, et... Je pense que peu importe le résultat de l'élection, Bernard, ne vous faites pas d'illusions. Même si j'ai cru il y a deux semaines au moment de la COVID chez Trump et tout ça que ça allait s'effondrer. Mm. Non, je pense que ça va être extrêmement serré.
Moi, j'aime pas la fin de campagne de Biden, là. En fait, j'aime pas la campagne de Biden, là. Ouais. Je trouve qu'ils se sont assis dessus. Et puis c'est pas bon. Faut que tu fasses campagne. Écoute, je suis pas ça là comme un correspondant à Maison Blanche, Luc. Mais j'ai l'impression que dans la dernière semaine, je retiens plus les moments où Barack Obama a fait campagne pour les démocrates que les moments où Biden a fait campagne pour les démocrates. C'est pas normal.
C'est pas normal. Puis les gaffes qu'il fait, qui s'accumulent, expliquent en partie pourquoi son entourage essaye de le convaincre de rester tranquille.
C'est comme s'ils faisaient pas confiance à leur candidat. Luc, à un moment donné, tu le présentes pour la présidence. Garde.
Ils n'ont pas confiance dans leur candidat. Moi, je le détecte. C'est très évident.
Parce que
le gars, il est plus le Joe Biden qu'on
je
a connu.
Je sais, bon.
De Firebrand qu'on appelait, qui était un tribun extraordinaire, tout ça. Il n'est plus ça. Puis il fait des gaffes qui sont vraiment bizarres,
Je sais. Mais
hey, quand il s'est mêlé entre sa femme puis sa sœur, tu te souviens de ça?
Oh oui, puis là, il s'est mêlé entre Trump et George Bush, là.
Ah oui, entre autres, parmi.
Oui, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, les Américains, écoute, là, c'est parce que s'ils sortent pas, là, il reste une semaine, là. S'ils ne le sortent pas, puis ils sortent en panique en fin de semaine, ça va avoir l'air, justement, de la panique. Ça, c'est bon rien, ça. Ça, c'est ouais. bon rien, là.
Et de toute façon, ils se disent peut-être même qu'il y en a autour de lui qui se disent « ça peut pas être pire ».
Qu'est-ce que tu veux
dire? La dernière fois qu'il est sorti, c'est dimanche. Là, il s'est mêlé, il l'a appelé George deux fois au lieu de l'appeler Donald. Bon, alors, ils se disent « faut éviter qu'il en fasse d'autres comme celle-là ».
OK, donc c'est moins pire de le cacher que de risquer qu'il fasse d'autres erreurs.
Et je te rappellerai qu'ici même au Canada, c'est vrai que toi, t'étais peut-être trop jeune, mais en 1980, là, quand il y a eu une élection, quand Joe Clark avait un gouvernement minoritaire en 79, il a été défait en décembre, il y a eu une campagne de 57 jours, et moi, j'ai couvert la campagne, la moitié avec les conservateurs, la moitié avec les libéraux, et Trudeau avait mené une campagne, Pierre-Éliott Trudeau, complètement à la cachette, là. C'est complètement à la cachette.
Ben oui, parce qu'il était pas, il était pas très populaire.
Il était beaucoup moins populaire que son parti. Alors, ils ont dit, on le cache. Ouais. Alors, il faisait des événements à 7 heures le soir. Et compte tenu des équipements électroniques qu'on avait à l'époque, c'était trop tard pour relayer ça d'un bulletin de nouvelles. Il faisait à peu près rien.
Puis il a été élu majoritaire.
Facilement. Ben oui. Il y avait même eu une fameuse scène cocasse. Je me rappelle plus qui était la journaliste. Mais tous les journalistes essayaient d'avoir une entrevue avec Trudeau. Il en donnait à personne. Il faisait pas de point de presse. Il faisait rien. Puis une bonne fois, ils sont dans un hôtel à Sherbrooke. Et une des journalistes, une Canadienne anglaise, mais je me rappelle pas de son nom, voit que Trudeau est rendu dans le sauna. Fait qu'elle se dit, je vais le coincer à la sortie du sauna. Il va être obligé de me répondre. Et là, Trudeau, au lieu de dire, ben attendez, tassez-vous. Que je dis, ben non, venez vous joindre à moi dans le sauna. Alors, elle est allée dans le sauna.
As-tu fait l'entrevue?
Elle a fait l'entrevue dans le sauna.
OK, mais pas une entrevue télévisée, là.
Non, quand mais même. Je pense que c'est la Canadian Press.
Ça a donné une entrevue dans la presse écrite. OK, mais quand même, on s'imagine la scène. Changeons de sujet, parce que ça brasse dans certains pays musulmans où les manifestations sont très intenses contre la France, en particulier au Bangladesh. D'abord, donne-nous la source de ces manifestations, s'il te plaît.
Essentiellement, c'est quand le président français a pris la parole. Il y a d'autres origines à ça, je peux y revenir, mais quand il a pris la parole la semaine dernière, au moment de rendre hommage à Samuel Paty, tu sais, le professeur qui a été décapité, et la citation qui a fait bondir le monde musulman, c'est quand il dit « Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. » Alors, le président de la Turquie, Erdogan, qui essaie de recréer une sorte d'empire ottoman à l'heure actuelle. Oui. C'est depuis que Trump s'est retiré du Moyen-Orient pour l'essentiel. Il y a tout un jeu qui se joue à l'heure actuelle. Qui va être le leader du monde musulman? Alors, avant la chute de l'Empire musulman en 1918-1919, en fait, il est mort officiellement en 1920, c'était le grand calife de Constantinople, Istanbul, qui était le chef du monde musulman et la référence, ça restait la Turquie. Ensuite, la Turquie s'est complètement tassée, c'est devenu l'Égypte. Puis ensuite, l'Égypte est devenue trop pauvre. Franchement, ils ont des problèmes économiques tellement dramatiques qu'ils peuvent plus assumer ce rôle-là. L'Arabie saoudite a décidé de prendre la pôle, mais à côté de ça, tu as un certain M. Erdogan, président de la Turquie, une puissance régionale incontournable,
oui.
Une des 4 ou 5 plus grandes armées du monde. Alors, M. Erdogan a décidé qu'il brassait la cage partout dans la région. Et
il y a brasse en maudit, il y a brasse en Syrie, il y a brasse contre les Arméniens, évidemment, en appuyant l'Azerbaïdjan là, conflit du Nagorno.
Il y a brasse également, j'allais dire, en Libye.
Puis il y a brasse aussi par rapport à la Grèce, tu te rappelles, il y a quelques semaines dans les eaux territoriales que la Grèce considère sienne. Et puis là, quoi? Et là, il menace la France de quoi? D'un boycott économique? Est-ce que c'est ça?
Non seulement il menace, il encourage un boycott économique de la France. Là, les gens ont commencé à prendre la rue dans diverses capitales du monde arabe contre Emmanuel Macron.
Contre les produits français. Ils disent, on boycotte,
contre les produits français. Les vins, les ci, les ça. Mais sais-tu, il y a quelque chose derrière ça aussi qui est un peu intéressant. La France est un des plus grands fournisseurs d'armes aux pays arabes. Alors, je sais pas s'ils vont boycotter ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, la France, présentement, est prise dans un bras de fer avec la Turquie. D'abord, la Turquie a décidé d'aller explorer le gaz naturel qui se trouverait en Méditerranée, proche de ses côtes, mais qui serait en fait dans des eaux territoriales grecques. Oui. Alors, ils ont envoyé des bateaux de recherche, et là, la France a décidé que c'était intolérable. Ils ont envoyé des navires de guerre français.
Oui.
Et effectivement, Erdogan a reculé. Mais peu après, il y a eu une autre confrontation, et là, ils ont envoyé des avions de combat Rafale. Et là, ça devient de plus en plus... évidemment, il y a le cas de l'Arménie, parce que la France
appuie
profondément à cause de sa population arménienne. Ben il y a certainement 3-4 millions d'Arméniens en France.
Bien sûr.
Alors,
est-ce que tu crains, Luc, es-tu en train de nous dire que une escalade pourrait mener à un conflit armé direct entre la France et la Turquie?
Oui, c'est à ça que ça commence à ressembler. On est loin du on est loin. Tu sais comment ça marche, hein? Une étincelle de plus, puis ça peut décoller. Puis Erdogan, il joue une game qui fait qu'il sacre le feu partout pour ainsi créer une situation où tu peux pas éteindre les feux si t'as pas Erdogan avec toi. Alors, il essaie de jouer la carte Chine, où il achète des drones et tout ça, la carte Russie, avec qui il y a des hauts et des bas. La Russie est pas très contente de ce qu'Erdogan fait présentement en Arménie, mais...
Oui, en effet.
Alors...
Il joue la carte musulmane.
Il joue toutes les cartes qu'il peut jouer. Il joue la carte saoudienne. Il sait que son adversaire mortel, c'est nul autre que... son adversaire mortel, excuse-moi, c'est parce que j'ai reçu un texto pendant que je te parlais, j'ai perdu mon idée.
Vas-y.
Je pense que il joue avec le feu également avec la Chine, avec la Russie, et la France s'est avancée très loin, et Macron présentement se trouve dans une situation où si il va pas un pas plus loin, il va avoir l'air d'un couillon. Il a brassé la cage.
Un pas plus loin, quoi? En appeler lui-même à des mesures de représailles économiques contre la Turquie?
C'est une possibilité. Et la Turquie, si elle avait pas de l'Europe pour écouler ses marchandises, serait en bien piètre état économique. Faut savoir qu'Erdogan, à l'heure actuelle, joue la carte nationaliste à fond la caisse. Pourquoi? Parce que l'économie du pays ne se porte pas bien, ce qui n'était pas le cas. Depuis une quinzaine d'années, la Turquie avait une croissance annuelle de 7, 8, 9 %.
Ouais.
Là, ils sont presque à la récession. Et
il y a des élections, le Erdogan, là. Il va être obligé de faire face à l'électorat à un moment donné, là.
C'est ouais, pas pour. Hein? C'est assez étonnant. Il est assez populaire. C'est assez
mais moi, étonnant. Quand je suis allé l'été passé, là, m'a dit, là, les Turcs, ce qu'ils disent à propos d'Erdogan, là, c'est il est un petit dictateur. C'est dictateur. Dictateur. Et c'est ce qu'ils disent tout le temps. C'est mon Turc qui n'est pas bien, bien fort. Mais ça, ça, je l'ai compris. Et. Bon, je sais pas si c'est du turc ou il essayait de, il utilisait un mot en anglais puis qui était prononcé à la turque, mais en tout cas, peu importe, c'est le mot qu'ils utilisaient quand je parlais un peu de politique, là, avec eux autres, là. Ce qu'ils me disaient, c'est que leur président était dictateur. Mais tu sais qu'il y a des peuples qui haïssent pas ça, avoir un dictateur. C'est un dictateur qui leur donne un sentiment de puissance et qui les fait gagner et qui leur permet de rêver un retour de ce qui a été l'Empire ottoman. Ben oui, c'est ça.
Qui fut le plus grand empire au monde.
La gloire.
Qui a duré 500 ans.
Ben oui.
Et il essaie de faire renaître cette espèce de fierté. À l'époque, le monde musulman, on se rapportait au calife qui était installé à Constantinople. Il essaie de ramener ça dans le cœur des gens. Et étonnamment, ben, faut dire que les gens qui ont la nostalgie de l'Empire ottoman, c'est certainement pas la nostalgie de la démocratie qu'ils ont.
Ah,
c'est, ça,
voilà,
tu comprends.
Voilà.
Alors, c'est un peuple qui cherche un leader fort. Je pense qu'ils en ont trouvé un. Et là, on va voir dans les prochains mois... Est-ce que Erdogan est un génie de la géopolitique ou un cancre? On va voir. Est-ce que la France va aller jusqu'à utiliser sa force militaire? On va voir aussi.
À surveiller, mais pendant ce temps, il y a des manifestations un peu partout contre la France, les produits français contre Macron.
Boycotté, oui.
On en reparle, mon cher Luc.
À tantôt.
Après la pause, les policiers qui demandent de l'aide.